Nous ne pouvions parler de synthèse vocale sans parler des vocaloïdes, et de la plus connue d'entre elles, Hatsune Miku. Il se trouve qu'en faisant des recherches, nous avons découvert un compositeur français qui s'en sert avec un twist que nous vous laisserons découvrir. Et en discutant avec cette personne, celle-ci a montré une connaissance très fine de ce que nous appelons abusivement vocaloïdes. Donc forcément, nous ne pouvions que lui proposer d'en parler. Par son expérience, sa connaissance de la scène créative et surtout de par sa passion. Nous avons le plaisir de recevoir par satellite Sally Dreams, autodidacte pluridisciplinaire, développeur C, C++, C# et Rust, a d'ailleurs porté Rust sur Nintendo DS et auteur-compositeur pour Vocaloid. CPU, carré et petit utile. C'est les Dreams, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, depuis quand êtes-vous musicien ?
J'ai commencé en fait surtout vers 2016, pas forcément très sérieusement. J'expérimentais un peu par exemple avec des logiciels comme LMMS, qui est un logiciel open source de composition musicale. À l'époque, c'était vraiment surtout des styles un peu piano et instruments virtuels, style plus jeux vidéo, OST. Je me suis surtout mis en fait vers le Vocaloid vers les 2018, je dirais. J'avais commencé surtout sur Utahu, puisque c'est un logiciel gratuit. J'avais essayé la démo de Hatsune Miku, parce qu'il y a une démo disponible qui est utilisable 31 jours. C'est à partir de là, en fait, que, au fur et à mesure, je me suis lancé, j'ai commencé avec la démo, et après, au final, j'ai acheté le logiciel et je me suis mis en plein dedans, quoi.
Et avant, justement, cette rencontre avec les Vocaloids, dans quels styles musicaux vous jouiez principalement?
Avant de commencer les Vocaloids, du coup, j'étais surtout dans des styles un peu plus jeux vidéo, je disais des instruments plus classiques et autres, un peu inspirés par les RPG japonais, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Du coup, tout ce qui est Pokémon, tout ce qui est... voilà.
Comment avez-vous découvert les Vocaloids ? Comment est arrivée cette première rencontre ?
C'était d'une façon un peu unique. C'était vers 2013 sur jeuxvideo.com. En fait, j'étais pas mal sur ce site à l'époque pour me renseigner pour tout ce qui était, par exemple, les jeux Sonic qui allaient sortir, les trucs comme ça. Mmh. Et sur un forum jeuxvideo.com, il y avait quelqu'un, c'était avant la sortie du jeu Sonic Boom, je crois, qu'il y avait un gars qui avait posté un peu un troll sur le forum qui disait que Sega changeait de mascotte pour Hatsune Miku. Du coup, j'ai essayé de me renseigner sur le personnage, quoi. Parce que je savais pas du tout de quoi y parler. Et d'ailleurs, la première en fait chose sur laquelle je suis tombé sur YouTube en tapant Hatsune Miku, en fait, c'était même pas une chanson réelle de Miku. C'était une vidéo de danse d'un modèle 3D de Miku sur la chanson Bad Apple, qui était une...
qui est un grand classique, pas mal utilisé dans les démos, ouais.
Mais c'est pas une chanson Vocaloid. Du coup, ça donnait pas la bonne idée. Mais du coup, la vraie première chanson vocale que j'ai entendue, c'était du coup Hazy Moon par Minatope.
Donc alors, les Vocaloids, d'où viennent-elles ? Que sont-elles exactement ?
Les Vocaloids, bon, si on est précis, en fait, en général, on appelle ça plus des banques d'instruments vocaux qui sont utilisées techniquement sur le logiciel Vocaloid Editor par Yamaha. Mais après, de nos jours, Vocaloid, c'est devenu en fait un peu un terme plus général pour parler des voix de chant synthétiques. Une partie de la communauté qui a commencé le terme vocal synth, donc synthétiseur vocaux, mais en fait, c'est pas encore utilisé de façon universelle par tout le monde. Donc, de nos jours, en tout cas, quand on parle de Vocaloid, on parle vraiment de un peu de l'univers Vocaloid, donc les voix virtuelles de chant utilisées par divers logiciels.
En 2000, Yamaha sort Daisy, c'est le logiciel parent en fait du système Vocaloid. À ce moment-là, est-ce qu'il y avait d'autres chanteurs et chanteuses virtuelles précurseurs sur le marché des logiciels musicaux ?
Je pense qu'il y avait sûrement des débuts. Il me semble que déjà qu'à une époque, c'était avec, je crois que même le genre de chip de synthèse qui était sur la Mega Drive à l'époque. La Mega Drive, c'est le type YM2612. Il avait techniquement une partie qui était centrée sur la synthèse vocale. Donc je pense qu'il y avait déjà des débuts avant, mais je pense que c'est vraiment Daisy et Vocaloid en soi qui a plus concrétisé la chose.
Le programme est édité par Yamaha. En quoi consiste-t-il exactement ?
Vocaloid, il a eu plusieurs versions avec les années. Mais le concept de base, ça c'est resté globalement le même. Le logiciel Vocaloid Editor, c'est là où en fait où la majorité du travail se fait. C'est comme n'importe quel logiciel, on va dire, de musique classique, dans le sens où on dispose d'un piano roll, qui est un piano un peu mis de côté, qui permet de mettre les notes. Et la différence, en fait, principale, c'est que dessus, on peut ajouter évidemment des paroles et choisir une voix. Et il y a pas mal de paramètres d'automation qui sont utilisés pour éditer la voix plus en détail, pour y donner des effets créatifs. Parce que certains s'en servent pour plus de réalisme, mais il y en a, ils s'en servent plus pour des effets un peu plus uniques. Parce que, justement, il y en a, ils aiment bien l'aspect justement plus virtuel de la chose.
D'un côté, Yamaha, et à côté, il y a Krypton Future Media. Qui est cette entreprise et que fait-elle exactement ?
Krypton Future Media, c'est une entreprise japonaise de développement d'instruments virtuels. Ils s'occupent aussi de l'édition en fait de beaucoup d'instruments pour leur publication au Japon. Ça inclut même des instruments en fait étrangers qui sont publiés par Krypton au Japon. Et du coup, ils sont propriétaires en fait de leur propre plateforme de vente SonicWire.
Ok.
Et leur plateforme de distribution de musique Router.fm, où en fait justement les compositeurs japonais peuvent en fait publier leur musique sur Spotify, etc. Et ce qui est cool pour eux, c'est que la plateforme Router.fm s'occupe un peu de tous les côtés légaux quand ils utilisent des Vocaloid et Krypton. Ils possèdent aussi le label de musique Current, qui est un label quasiment dédié aux musiques Vocaloid, à Hatsune Miku, etc.
Ils ont à la fois une plateforme qui sert d'éditeur musical et ils ont leur propre label à côté discographique.
Oui. Et du coup, pour ce qui est développement, bah du coup, ils sont très connus pour leurs Vocaloid, que ce soit Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kaito, etc. Mais en fait, c'est vraiment une entreprise de développement dans le milieu musical en général.
Yamaha a décidé de donner une forme, un visage, donc à ses voix synthétiques, à ses instruments vocaux. D'après vous, pourquoi ? C'est une manière de se démarquer de produits concurrents ou c'était bassement mercantile et profiter en fait d'un aspect un peu male gaze qui joue là-dessus ?
Ben, en fait, le fait de donner un visage à ces produits, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau au Japon, je dirais. C'est un peu un truc que l'on retrouve, en fait, sur pas mal de produits, hein, que ce soit des sodas, du jet douche, des chips. En fait, on le retrouve un peu partout. C'est fait pour donner un côté mignon, attirer les yeux, voilà. Mais après, c'est même d'une façon un peu plus naturelle pour une voix de vouloir y mettre un visage, parce que c'est justement ça, on l'associe à une personne. Mais je dirais que Yamaha en soi n'a jamais vraiment porté trop d'attention au visage humain, parce qu'en fait, si on regarde une bonne partie des voix développées par Yamaha eux-mêmes, celles-ci en fait sont souvent plutôt abstraites. Parfois, elles ont une silhouette de base humaine, mais sans beaucoup de détails. Mais en plus, si on regarde certaines voix comme VY1 ou VY2, les deux en fait, les voix, c'est juste littéralement juste un logo. En fait, c'est un logo. Il n'y a pas de forme humaine. C'est surtout Krypton Future Media qui accorde beaucoup d'attention à l'apparence, parce que justement, ils s'assurent vraiment avoir une genre d'uniformité dans leur série. Qui justement c'est la série CV Character Vocal Series qui justement démarré avec Hatsune Miku, mais après du coup qu'ils ont eu Kagamine Len, et du coup ils s'assuraient pas juste à mettre un personnage sur la boîte, mais porter tout le Vocaloid sur un personnage à part entière en quelque sorte.
Et puis eux, ils ont pas des pianos classiques pleines queues à vendre aux salles de concert, donc ça ne pose pas de problème de personnifier leurs instruments. Je sais d'expérience que les entreprises japonaises sont très procédurières sur leurs droits d'auteur, sur les droits dérivés. Quelle est la licence du sonore qui est générée avec un logiciel Vocaloid ? Et quelles sont les limites, du coup, s'il y en a ?
Pour ce qui s'agit de Vocaloid en particulier, la plupart des voix Vocaloid ont des termes d'utilisation qui sont plutôt similaires quand il s'agit uniquement de la voix sans s'y attacher le personnage. Les termes en fait généraux interdisent d'utiliser les voix dans des contextes illégaux, criminels évidemment, mais il y a pas mal d'utilisations qui peuvent porter des retours négatifs à la marque, comme utiliser la voix dans une campagne politique, chose qui est actuellement arrivée pour Hatsune Miku.
Ah oui, d'accord.
Il y a un camp politique japonais qui avait essayé d'utiliser Hatsune Miku, et l'utiliser pour du harcèlement, évidemment, ils veulent pas, et c'est normal. En général, la plupart des termes compliqués, c'est quand on parle de l'utilisation commerciale. Les voix seules, en fait, en général, peuvent être utilisées pour une utilisation commerciale si on ne mentionne pas l'utilisation, en fait, de la voix. Donc, qu'on ne mentionne pas son nom ou qu'on n'utilise pas, en fait, son design. Parce qu'en fait, le personnage en soi est considéré comme quelque chose de séparé de la voix au niveau des droits commerciaux. en quelque sorte, ils veulent qu'on paie pour le privilège de la promotion qu'est le personnage.
Est-ce qu'ils mettent des limites sur, par exemple, ce que l'on peut promouvoir en dehors de la partie politique et la partie illégale? C'est-à-dire, si je fais une chanson, le caca, yabon, miam, miam, est-ce, avec Hatsune Miku, est-ce que ça pourrait me poser problème?
Je pense pas, vu que en général, ils sont plutôt ouverts. Parce qu'en fait, une chose dans le milieu Vocaloid qui est appréciée, c'est justement le fait que les voix digitales permettent aux gens de faire des musiques sur un peu tout sans vraiment avoir honte de demander à un chanteur de la chanter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de musiques qui, honnêtement, je crois que sans Vocaloid, elles seraient pas sorties.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec CD Dreams, qui est auteur-compositeur pour Vocaloid, pour parler des chanteurs de synthèse qui viennent inonder, via le Japon, la scène créative. On vient d'écouter Hatsune Miku. On va en parler tout à l'heure dans un autre segment de la performance que tu fais justement dans ce morceau pour le futur. Mais parlons de la plus connue de celle-ci. Qui est-elle? Quel est son type de voix, son aspect visuel et sa biographie fictive?
Hatsune Miku, c'est donc une voix virtuelle qui est basée sur l'actrice de doublage Saki Fujita. Elle a une voix un peu exagérée dans le style japonais moe, du style jeune fille 16 ans mignonne. Elle a des couettes turquoises, une figure qui est plutôt fine et une tenue à jupe dans un style en fait qui fait très futuriste, gris, noir et bleu dans sa version originale. Parce que évidemment dans les versions après, ils ont un peu édité son design, parce que par exemple ils sont passés à du blanc dans certains après plutôt que le gris. C'est un peu sa biographie dans le sens, parce que Krypton préfère ne pas donner trop de biographie non plus aux voix, justement, pour permettre aux compositeurs de faire un peu n'importe quoi avec, quoi, qu'ils puissent s'en servir un peu comme une sorte de cadre ou de feuille, en fait, pour dessiner, quoi. Une feuille blanche.
C'est une très belle image, ouais.
Afin qu'ils puissent être créatifs avec.
C'est une très belle image, un patron, quoi. Quelles sont les autres voix et autres personnalités qui sont disponibles dans le même style?
Alors, c'est une question plutôt difficile, parce que rien que pour Vocaloid, il y a probablement plus de 200 voix. Mais si on se base, en fait, juste sur les voix Krypton Future Media, quoi, par exemple, ceux qui ont fait Hatsune Miku, il y en a plusieurs populaires. Ça inclut Kagamene et Lin Helen, un duo de voix qui est jumelle, qui viennent, en fait, de la même personne, Asami Shimoda. En fait, c'est une fille et un garçon. C'est un peu comme un duo de jumeaux, quoi. Comme Hatsune Miku, ces voix, elles ont été conçues dans un style similaire, dans le style mignon. Sauf que ces voix sont un peu plus centrées, je dirais, sur la puissance, dans le sens où leur voix, elle est forte. Donc c'est pour ça qu'ils sont souvent utilisés dans du rock. Après, leurs vêtements ont un thème un peu différent, dans le sens où ils vont plus dans un thème blanc et jaune. Ils ont du coup aussi des cheveux jaunes qui sont surtout courts et pointus, ce qui fait contraste à Miku, qui a des longues couettes turquoises. Et ils portent surtout des shorts au lieu de porter des jupes comme Miku. Après, il y a aussi Megalina Luca, qui est un autre de la série, qui, elle, c'est une voix justement qui a été faite pour représenter plus une jeune adulte plutôt qu'une adolescente. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a un design qui fait plus mature. Elle a des cheveux roses, une tenue noire et dorée, avec une longue robe de soirée plutôt que le style le plus mignon des autres.
Qu'est-ce qui fait que Hatsune Miku a une telle popularité justement par rapport à ses collègues numériques? Bon, en termes de popularité, c'est pas Akabi 48, mais quand même.
Je dirais que la popularité de Miku, ça vient probablement de sa polyvalence, en fait, parce que n'importe qui peut l'utiliser dans n'importe quel type de contexte. Sa voix, elle peut être douce comme elle peut être agressive, ça dépend du type de chanson dans laquelle elle est utilisée. Et en plus, le style mignon, je pense, c'est un bon moyen d'encourager la communauté à la mettre dans plein de situations, parce que du coup, ça attire les compositeurs, mais d'un autre côté, ça attire aussi les artistes qui aiment bien les personnages mignons et autres. Et du coup, on se retrouve avec vraiment tout un univers créatif, que ce soit dans les musiques elles-mêmes ou dans les vidéos musicales qui sont faites avec. On s'est même retrouvé parfois avec des gens qui créent dans la communauté en fait des faux Vocaloids en quelque sorte qui sont basés en fait sur un autre. C'était par exemple le cas justement de Akita Nele, qui est justement une fausse voix en quelque sorte qui a été faite à partir de Miku, mais qui a son propre design et qui a fini tellement populaire qu'elle a fini dans le jeu Hatsune Miku officiel.
Alors que c'est la même voix à la base, avec pratiquement les mêmes paramètres sonores, quoi. Les mêmes enveloppes et tout ça, ouais.
Oui, sauf que la façon dont les gens utilisent Akitane 2, c'est qu'ils se basent soit sur Hatsune Miku, soit sur Kagamine Lil, et ils éditent les paramètres de pitch, ou plutôt plus précisément de Forment, pour donner un style un peu unique. Mais en fait, de base, la voix, c'est exactement la voix d'Hatsune Miku ou de Kagamine Lil. Ça dépend de la personne.
D'accord. Hatsune Miku a fait des vrais concerts, avec du vrai public, et des vrais musiciens d'ailleurs. Mais du coup, qui a composé les morceaux ?
La plupart des chansons qui sont utilisées en fait dans les concerts d'Hatsune Miku, c'est des chansons qui ont été composées par des compositeurs en fait indépendants du net, donc les homeroom producers comme on dit. C'est des gens en fait un peu comme vous et moi qui se sont décidés un jour d'acheter Hatsune Miku et composer des chansons avec elle et les poster sur le net. Donc en fait, c'est souvent les chansons qui attirent le plus l'attention et qui deviennent le plus populaires sur internet qui finissent sélectionnées. Krypton organise aussi souvent des concours dont les chansons gagnantes en fait finissent utilisées par la compagnie dans certains contextes. Ça peut être ajouté dans leur jeu Project Sekai, ce qui est plutôt populaire, ou alors que ce soit joué sur en concert justement comme à la Miku Expo.
Donc en clair, c'est un peu comme Star Academy, Popstar et tout ça, sauf que au lieu de voter pour l'interprète, l'interprète est la même pour tout le monde, ce que l'on vote, c'est le compositeur derrière.
D'une certaine façon, oui.
C'est plutôt intéressant du coup que le label qui soit derrière ait décidé justement de promouvoir justement les utilisateurs réguliers de son logiciel. Je trouve ça sympa.
En plus, ça permet en fait justement à n'importe qui en fait d'avoir ces chansons qui se font reconnaître un peu à l'international, quoi.
Il y a des mises à jour régulières, des extensions, et à part le redesign graphique, en quoi ça consiste sur les évolutions ? C'est sur la qualité sonore, sur la tessiture ?
En fait, il y a beaucoup de vocales qui sont disponibles. Et en fait, les mises à jour, elles dépendent vraiment en fait de la popularité de chaque voix. En général, les mises à jour majeures, elles sont pas vraiment gratuites et représentent donc un coût. Par exemple, les voix comme Hatsune Miku, qui évidemment sont ultra populaires, ont eu une version sur Vocaloid 2, sur Vocaloid 3, sur Vocaloid 4, et en plus, il y en a une sur Vocaloid 6 qui est en développement. Mais il y en a certaines, comme par exemple la voix Mayu, qui était sur Vocaloid 3 et qui n'a jamais en fait eu d'autres versions parce que elle a juste pas eu assez de ventes en fait pour probablement justifier le coût de développement des autres versions. Donc en fait, ça dépend vraiment intégralement des ventes à ce sujet. Mais après, les mises à jour sont un peu plus courantes, par exemple sur les logiciels comme Synthesizer V, qui là, les mises à jour sont plus courantes, surtout parce que ce sont des voix qui utilisent plus la technologie IA, et du coup, il y a moins besoin de réenregistrer à chaque fois des nouveaux trucs pour que la voix soit mise à jour.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Céline Dreams, qui est auteur-compositeur pour Vocaloid. Et justement, on va parler de la plus célèbre d'entre elles, qui est Hatsune Miku, et comment il travaille avec elle. Alors, Céline Dreams, pourquoi avoir fait appel à Hatsune Miku ? Est-ce que, contrairement à des musiciens de studio, elle était disponible un samedi soir à 23h et pour pas cher ? Ou est-ce que c'est pour son timbre de voix ?
Alors, Hatsune Miku, comme indiqué précédemment, en fait, c'est un peu une bonne base pour, sur laquelle on peut se baser pour en fait, faire son propre univers. Du coup, en fait, elle a une voix qui est plutôt polyvalente et qui peut sonner bien dans plein de contextes. Parce que, aussi, sa voix, elle est quand même plus facile à mix que certaines autres voix. Personnellement, je la trouve plutôt adaptée pour ce qui est des chansons qui sont très dynamiques et rapides, ce qui est un style que j'apprécie. Mais après, je n'utilise pas vraiment que Miku. Il m'arrive aussi d'utiliser Kagamine Lin, Mayu et quelques autres voix comme Kasane Teto, qui, elle, est plus une Utaou et Synthesizer V. En tout cas, Hatsune Miku, c'est vraiment tout le côté justement où elle est très polyvalente, quoi. C'est vraiment, on peut la poser dans une musique douce, on peut la poser dans une musique, on peut la poser sur du métal. Il y en a, ils le font. Elle passe dans tout.
Ouais, quoi que je la vois mal faire du growl sur du grindcore. C'était plus fun de travailler sur un vrai titre que de jouer à un idol management game, genre The Idol Master.
Bon, après, je dirais que j'y connais pas grand-chose à l'univers de Idolmaster, mais je pense pas que les deux sont vraiment très comparables, hein, parce que Idolmaster, c'est plus une série...
Oui, c'est plus un jeu d'aventure où on joue le producteur, et d'ailleurs, les morceaux sont préenregistrés, sont précalculés, donc...
De mes souvenirs, ouais, c'est même pas... on joue même pas un producteur, je crois qu'on joue plus un... Ouais, c'est les gens qui gèrent les idoles, plutôt.
Oui, c'est producteur, c'est carrière manager.
Manager, voilà.
Une Vocaloid comme Hatsune Miku, comment qu'on s'en sert ? On entre la partition et les paroles et on appuie sur Go ?
Un Vocaloid, c'est un peu comme n'importe quel logiciel de création musicale. Donc, on a, comme j'ai dit précédemment, en fait, un piano roll, donc, dans lequel on peut rentrer les notes qu'on veut. On rentre les, et après, le Vocaloid chante à une note, techniquement. Donc, mais en fait, ça, c'est plus l'idée de base. Parce que si on fait que mettre des notes et des paroles, il va le chanter, mais il va pas le chanter bien. vous savez, il y aura aucune émotion, il va le, c'est vraiment comme, ouais, ça, c'est un peu, quelqu'un il fait la, 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 c'est pas musical. Donc, voilà, une voix humaine, c'est rempli de plein de nuances. Il y a plein, pour y mettre de l'émotion, genre, on a plein de variations en général. C'est de là, en fait, que vient le concept de tuning, qui est, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la communauté. C'est la partie en fait qui va distinguer le style de chaque compositeur, parce que même si on utilise la même voix, en fait deux compositeurs Vocaloid, souvent ils sonneront jour et nuit, et ils sonneront pas du tout la même pareil. Ils font le tuning avec plusieurs façons. En général, la plupart des cas, c'est en éditant les paramètres d'automation. Par exemple, il va éditer les fluctuations de pitch entre les notes. Ou alors le gender factor, qui change un peu, surtout les formants, justement, qui change un peu le timbre de la voix, un peu. Et avec toutes les combinaisons possibles, que ce soit avec le pitch, avec les paramètres, genre, je sais pas, l'air qui va être mis dans la voix, etc., ça va donner le style un peu unique.
Est-ce qu'on peut faire, par exemple, un frill, ou justement faire ces espèces de vocalises variables, ce genre de choses?
Alors, ça dépend du logiciel, mais sur Vocaloid, en général, c'est des effets qui peuvent être un peu reproduits en faisant des modifications spécifiques de la façon dont ça fait le pitch. Donc, ouais. En fait, c'est parfois, par exemple, on peut émuler le frill un peu en mettant des pitchs très bas qui vont d'un seul coup vers le haut. En tout cas, c'est ce que j'ai vu que certains producteurs faisaient.
D'accord.
Donc, okay. Ça peut être émulé. Après, c'est pas natif au logiciel.
Forcément. Et limite quand même. Hatsune Miku, donc, est d'origine japonaise. Elle est censée chanter en japonais. Donc, comment vous, c'est les Dreams, vous arrivez à la faire chanter en français, comme on l'a entendu dans le morceau pour le futur, c'est-à-dire sans la voyelle U, ni le phonème SI. D'ailleurs, pourquoi avoir voulu la faire chanter en français?
Alors, en fait, Hatsune Miku, dans ses versions originales sur Vocaloid 2, oui, elle ne pouvait chanter que japonais. Mais en fait, avec les années, elle a gagné quelques voix. Par exemple, elle a gagné à partir de Vocaloid 3, le support, en fait, de l'anglais. Donc, elle peut chanter anglais à partir de Vocaloid 3. Et à partir de Vocaloid 4, elle a aussi eu une version chinoise.
Mandarin ou cantonais? C'est pas le même chinois?
Il me semble que c'est le mandarin pour ce qui s'agit de Hatsune Miku V4.
D'accord, ok. Donc, c'est à destination de Taïwan, principalement.
Les premières chansons, en fait, Vocaloid que j'ai faites, surtout vers les 2018-2019, c'était, j'utilisais surtout les versions anglaises des voix, parce que ça, à l'époque, ça permettait de faire chanter avec les paroles sans, parce que tout manière, je découvrais Vocaloid, donc évidemment, j'allais pas directement les utiliser dans des utilisations uniques, forcément. mais en fait, j'étais pas forcément trop fan de leur ton anglais. Parce que évidemment, Tuberse déjà c'est des voix japonaises, donc évidemment elles vont pas avoir un anglais parfait. Je trouvais que pour la musique, en tout cas, l'anglais était pas vraiment mon ton favori. Donc je me disais que la langue française, elle avait pas mal de potentiel dans le style de chant japonais. Donc ce que j'ai pas mal en fait expérimenté. Et du coup, pour le futur, en fait, c'était un peu la première chanson que j'avais sortie en fait en les utilisant en français. Je l'avais fait d'ailleurs pour la Miku Expo de 2021. Mais en fait, elle n'a pas remporté le concours, par contre. Mais au moins, bon, Crypto Future Media l'a au moins utilisé un peu dans leur radio Digital Star, donc au moins j'étais content. Pour le futur en particulier, j'avais utilisé en fait un combo où j'avais en fait utilisé la voix anglaise de Hatsune Miku en utilisant la voix japonaise à côté pour faire un peu fusionner les deux. Ouais, j'essayais en fait surtout de pouvoir exploiter les phonèmes des deux en fait voix pour justement pouvoir renforcer le côté français. Parce que si une n'était pas bonne dans un truc, l'autre pourrait peut-être compenser. En tout cas, c'était ma logique de l'époque. Après, avec les années, j'ai un peu changé mon approche. Maintenant, j'étais surtout directement la voix japonaise de Miku, sans forcément trop passer par l'anglaise pour faire du français. Je dirais que pour combler les phonèmes qui sont manquantes, vous avez mentionné par exemple la phonème U, j'utilise en fait le gender factor. Comme j'avais dit, le gender factor, c'était pour changer les formants. Donc, en général, c'est fait pour changer le pitch de la voix. Mais en fait, une voix, C'est un truc où je m'étais renseigné à une époque, où j'essayais de comprendre un peu le fonctionnement justement de la synthèse vocale. Et une voix, en fait, c'est composé de plusieurs fréquences fondamentales. Par exemple, il y a la fréquence fondamentale F0, qui elle correspond justement au pitch, qui est le pitch de la note, mais do, ré, mi, fa, sol, la, si. Puis, il y en a plusieurs qui sont F1, F2, F3, je crois que ça va plus loin, qui, elles, correspondent au timbre, de la voix. Et du coup, si on édite le formant, qui en fait décale en fait ces fréquences fondamentales vers la gauche ou la droite, bah, du coup, ça peut émuler en fait certains tons qui, justement, par exemple, sont des voyelles qu'on a. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, en éditant le formant, ça peut permettre d'émuler un peu certaines choses, justement, comme le ou français, ou des trucs comme un, et voilà, des trucs qui sont manquants. Et en jouant avec, ben, je peux essayer de faire chanter la voix en français.
Le fait que vous soyez développeur d'applications, ça vous a aidé dans cette approche ?
Ben, je dirais pas forcément directement, mais en fait, il y a des choses plutôt indirectes qui aident. Parce que pour utiliser un vocaloïde, il n'y a pas besoin d'être programmeur. Mais je dirais qu'en fait, c'est surtout la logique générale de résolution de problèmes, qu'on utilise en programmation, qui peut être très utile quand on travaille avec des vocaloïdes. Parce que justement, cette approche de se dire pourquoi est-ce que ça sonne pas comme je veux, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça sonne comme je veux. Enfin, cette approche de se remettre en question, en fait, pour se dire pourquoi il y a un problème et comment le résoudre. Je dirais que c'est cette approche-là qui, par contre, est très utile quand on travaille avec des vocaloïdes.
Mmh. Hatsune Miku a quand même des défauts de voix. Je suppose que les outils concurrents les ont peut-être corrigés. Alors, pourquoi l'avoir pris, elle, en particulier ? Justement pour cette reproduction un petit peu rétro de nos jours, ou parce que, tout simplement, c'était la plus connue et on a pris la première sur l'étagère ?
Bah, je dirais qu'en fait, il y a peu de gens qui utilise Miku, qui cherche en fait une voix réaliste, je dirais. C'est plutôt, en fait, je pense, c'est un peu ce ton irréaliste mignon qui est populaire. Il y a les voix vocaloïdes ou Utahou qui ont fini sur des logiciels plus réalistes, comme Synthesizer V. Souvent, elles ont eu un peu de controverse avec la communauté, parce que justement, du coup, il y a une partie de la communauté qui reconnaissait plus trop le personnage. Et c'est un peu pour cette raison, je pense, que Krypton est resté plutôt prudent pour ce qui était de changer le ton de Miku. Par exemple, vous pouvez être Kazane Teto, qui a originellement été une voix sur Utahou, qui était très artificielle, très robotique, mais d'une certaine façon, c'est ce que beaucoup de gens aimaient chez elle. Du coup, quand elle est arrivée sur Synthesizer V, elle a gagné plus de popularité auprès des gens qui aimaient pas trop le côté trop virtuel. Mais du coup, les gens qui aimaient justement ce côté virtuel et puissant, ils ont un peu moins aimé, du coup, la version Synthesizer V. Du coup, c'est vraiment une question de, je pense, de ce que les gens cherchent, en fait, dans la voix.
Mmh. Est-ce qu'après ces expériences, cela vous a donné d'autres idées créatives ?
Ben, je dirais que, en fait, j'ai un peu tout le temps des nouvelles idées qui me viennent en tête, que ce soit par, justement, mes expériences à composer des musiques, ou alors, justement, en écoutant des chansons qui utilisent la voix de manière originale, que ça donne des idées. Mmh. Mais après, je dirais que c'est entre avoir des idées et les appliquer d'une bonne manière, c'est un peu là d'où vient la difficulté. Parce que parfois, l'idée qu'on a en tête, elle n'est pas forcément si bonne quand on la met en pratique.
Oui, forcément. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes toujours avec Céline Dreams pour parler de ce que c'est qu'être producteur musical avec les vocaloïdes. Dans cette partie-là, on va plus parler de la scène, et j'utilise ce terme en fait parce que ça ressemble beaucoup à la démo scène en elle-même, et aussi en fait des alternatives qui existent aussi bien des alternatives propriétaires que libres. Donc à côté de Yamaha, je suppose qu'il y a d'autres logiciels. Lesquels sont en vogue actuellement ?
Alors en ce moment, il y a plusieurs logiciels, évidemment, autres que Vocaloid sur le marché. Je dirais que les principaux concurrents, c'est Synthesizer V Studio, qui est développé par Dreamtonics, qui se centre surtout sur les voix plus réalistes. Il y a Sevio, qui inclut aussi Voicena, qui est une version un peu gratuite, mais qui utilise la même technologie. Et il y a Utahou, ou plutôt Open Utahou de nos jours, qui en fait a toujours été en fait justement l'alternative gratuite à Vocaloid, qui originellement était gratuite mais était un logiciel propriétaire, mais qui de nos jours justement, comme je vous l'ai dit,
avait eu un nouveau logiciel développé par la communauté qui, lui, est open source, qui est OpenOtaou, qui est plus utilisé de nos jours.
On va y venir justement tout à l'heure. Qu'est-ce qui démarque, en fait, l'ensemble de ces produits ? Dans un cas, c'est pour une meilleure voix, parce que la licence des sonores produits est un peu plus libre pour les musiciens, parce qu'il y a d'autres langues ou des types de chanteurs que ne proposent pas de leur côté Yamaha et donc les éditeurs vocaux.
Ben évidemment, chacun essaie un peu d'avoir ses arguments de vente. Pour ce qui est de Synthesizer V, qui est un des plus populaires, c'est parce qu'en fait, de 1, il a un prix plus raisonnable, parce que si on achète Vocaloid depuis le site de Yamaha, Vocaloid, c'est plus de 200 euros quand même. Donc c'est quand même un investissement. Synthesizer V à côté.
Il y a des instruments VST qui sont dans ces prix-là aussi, hein.
Oui, mais je veux dire, le prix de chaque logiciel de synthèse vocale est en quelque sorte un argument en sa faveur. Mmh. Parce que, évidemment, si deux logiciels font la même chose, les gens vont se tourner vers celui qui fait la même chose, mais qui est moins cher.
Oui, forcément.
Mais du coup, pour ce qui est, par exemple, de Synthesizer V Studio, déjà, évidemment, il a un prix bien plus raisonnable, parce qu'il est vendu à 99 $. Donc, en plus, c'est moins cher, du coup, en euros, donc c'est plus proche de 95 € environ. Et en plus, il est extrêmement réaliste, avec une technologie d'intelligence artificielle qui est un peu à la pointe. C'est vraiment celui qui est le plus évolué dans le domaine. Et qui rend toutes ces voix en plus compatibles avec plusieurs langues. Grâce à la technologie, ils n'ont pas besoin en fait de réenregistrer dans chaque langue. Du coup, chaque voix en fait, Synthesizer V peut chanter japonais, anglais, mandarin, cantonais et espagnol. Mmh. Et les voix de la version 2 peuvent aussi chanter coréen. Ils ont même annoncé d'ailleurs que le français est en développement pour Synthesizer V. Donc en fait, d'ici quelques années, il est possible que le français soit nativement en fait sur Synthesizer V. Mmh. Ce qui sera vraiment du coup cool. Après, du coup, il y a Sevio, qui lui, par contre, n'est disponible que en japonais, mis à part certaines exceptions, comme la voix IA, qui a une voix anglaise. Je dirais que Sevio, en fait, il se démarque surtout sur les voix qui sortent dessus. Parce qu'en fait, beaucoup de voix, en fait, de chanteurs japonais qui sont plutôt célèbres, ou de VTubers connus, sortent sur Sevio et Voicena. Donc, en fait, je dirais que Sevio, c'est un peu le logiciel pour ceux qui sont pro-idol, quoi. Qui sont vraiment dans les idols, etc. Et que, du coup, il y a un peu leurs idols qui sortent dessus, quoi.
Donc, en fait, on achète pour le nom de la voix qui est reproduite derrière. Donc, en fait, on est plus sur du clonage de voix que réellement de la voix synthétique, commercialement.
Pas tellement, parce que du coup, certains déjà font un peu plus du voice acting et ils font pas le. Et Sevio n'est pas aussi réaliste que Synthesizer V. Même s'il a, il a quand même du réalisme, parce que de nos jours, il utilise de la technologie IA. Mais c'est moins réaliste quand même. Ils essaient de garder quand même le style un peu plus virtuel. Mmh. Donc, mais en fait, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de représenter leur passion. Et du coup, bah évidemment, ils ont des arguments de vente là-dessus.
Forcément. Donc, tu l'as cité, il y a un projet libre, OpenOtaou. Est-il qualitatif par rapport aux logiciels commerciaux ?
Ben, disons qu'OpenOtaou, en fait, c'est un cas un peu spécial parce que c'est open source, mais en fait, c'est plus comme un front-end, je dirais. Mmh. Parce que du coup, OpenOtaou, c'est plus l'interface du logiciel, mais en fait, derrière, il y a plusieurs moteurs qui sont possibles d'utiliser. Il est possible d'utiliser justement des moteurs Otaou, qui sont souvent appelés des resamplers, qui du coup sont des voix plus classiques dans le style Vocaloid original, qui n'utilisent aucune intelligence artificielle. Donc les voix sont concaténatives, c'est le terme technique.
On copie-colle des samples que l'on a repitchés et tout ça, quoi.
Oui, c'est ça. Mmh. C'est vraiment des samples qui sont paramétrés et qui vont. En fait, si on joue une note genre la, ben ça va jouer la sample la. Voilà. De nos jours, OpenOtaou du coup permet d'utiliser en fait les moteurs, par exemple DeepSinger et NNSVS, qui eux sont des moteurs à intelligence artificielle. Et ces moteurs-là, en fait, du coup, les gens peuvent développer des voix pour DeepSinger ou NNSVS, et après ces voix peuvent être utilisées avec OpenOtaou. Et il existe d'ailleurs justement une communauté française qui s'appelle Otaou France, qui, eux, justement, sont centrés sur la création de voix pour OpenOtaou. Ça inclut des Otaou, mais ça inclut aussi des voix DeepSinger françaises qui peuvent être utilisées en français et même dans d'autres langues grâce à leur système millefeuille qui leur permet justement d'avoir plein de langues disponibles, dont le français.
D'accord. On rappellera que sur la page web de l'émission, on mettra justement la plupart des liens que l'on cite et tout ça, et plus d'autres liens dans la partie documentation. Donc, vous embêtez pas à revenir en arrière pour noter les trucs. Allez direct sur la page web de l'émission. Il y aura toutes les informations. Et si vous nous écoutez en podcast, c'est que vous avez la description. Normalement, justement, vous pourrez retrouver ces informations dans votre player. Quelle est la taille de la scène Vocaloid, et je parle vraiment de la scène comme étant une scène de demo maker ou de compositeur, combien il y a à peu près de personnes actives dans ce secteur-là?
Alors, je pourrais pas forcément donner des chiffres exacts dans les personnes actives, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quand même une audience qui est plutôt conséquente. Mmh. Déjà, évidemment, c'est une grosse communauté au Japon, là, il y a rien à redire. Mais c'est aussi, en fait, en Occident, aussi une grosse communauté. Mais en fait, je dirais qu'en Occident, on a beaucoup plus de gens qui écoutent de la musique Vocaloid que de gens qui en produisent. Quand on regarde dans ceux qui, en quelque sorte, utilisent des Vocaloid, etc., en Occident, en fait, une bonne partie fera surtout des covers plutôt que des chansons originales. Donc, ils font chanter une chanson qui existe à un Vocaloid, un peu comme un karaoké, quoi. Mmh. En tout cas, il y a quand même une bien grosse audience qui écoute. Parce que, par exemple, si on regarde certaines chansons, il y en a quand même qui atteignent plus de 13 millions de vues, ce qui est quand même pas rien. Et en plus, il y a beaucoup de compositeurs qui font dans différents styles. Donc, vraiment, si on regarde, il y a quand même une communauté qui est pas mal là. Je pense qu'on peut aussi, par exemple, regarder en Occident toujours, par exemple, les concerts d'Hatsune Miku, que ce soit la Miku Expo, etc. Et on voit que à chaque fois, c'est quand même plutôt bien bondé, quand même, niveau... la salle, elle est bien remplie, quand même. Mmh. Donc, oui, il y a une scène Vocaloid. Après, elle est en Occident, elle est plutôt, je dirais, limitée quand il s'agit des compositeurs.
Ouais, forcément. Donc, il y a un public, mais il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui se sont penchées pour faire tourner le logiciel, quoi.
Je pense que c'est il y a probablement plusieurs raisons, hein, que ce soit le fait que le logiciel est plus tourné vers le Japon, souvent, que le fait que ça représente un investissement, alors qu'ils ne sont pas tous sûrs qu'ils auront un retour sur cet investissement. Et justement, en plus, les difficultés niveau licence. Parce que, évidemment, il y en a plein, ils veulent vendre leur musique, et du coup, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, ouais. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs en Occident qui compliquent un peu les choses. Mmh.
Qui sont les grands noms de cette scène, les producteurs qui pèsent dans le game?
Alors, il y a pas mal de noms qui sont plutôt populaires. Un qui est bien connu, ce serait Wowaka, qui est, je sais pas si je prononce correctement, mais voilà. qui lui a fait vraiment plein de musiques qui ont eu une énorme influence dans la communauté. C'est un peu lui qui a un peu fondé les bases pour l'utilisation des Vocaloid dans les musiques très rapides, très fortes en émotion, quoi, qui sont vraiment très tournées dans les émotions fortes. Sa musique, par exemple, Rolling Girl, est une de ses plus connues, qui a fini dans quasiment tous les jeux vidéo Project Diva, tellement elle est populaire. Il y a aussi, par exemple, évidemment, il y a Lama Zepé. C'est un de ceux qui ont un peu fondé le principe des, justement, comme je parlais, des musiques qui sont vraiment tournées sur les personnages de Hatsune Miku, etc. Il a, par exemple, composé la chanson Triple Baka, qui est une chanson qui utilisait Hatsune Miku, qui avait Akitane Lu et qui avait Kazane Teto. Et c'est vraiment des chansons plus connues pour un peu dans un côté comique, si tu vois ce que je veux dire, qui disent les personnages un peu avec leur personnalité. C'est un peu ces chansons-là qui ont donné un peu une popularité à ce que les gens utilisent, les voix, pas juste comme un instrument, mais aussi justement comme un personnage à part entière, avec son univers, quoi.
D'accord. Donc là, on est plus sur la comédie musicale, quoi.
Un peu, mais après, évidemment, ça reste des musiques, quoi.
Oui, bien sûr.
Mais il donnait plus un côté, justement, qui était mignon, quoi, qui donnait vraiment sur le côté comique. Et après, évidemment, il y en a qui sont vraiment plus dans le très sérieux. Par exemple, il y en a qui sont... Il y a Utsupe, qui, lui, est justement un producteur vocal connu, qui, lui, fait du métal. Du métal Vocaloid, et du coup c'est bien qu'on s'y attend, avec des screams, avec des voix très tout ce qu'on y attend du métal, quoi.
Ouais, avec la différence qu'en concert, un slam d'hologramme, tant que le matériel ne bascule pas, ça va, il n'y a pas de risque. Là-dessus, est-ce qu'il y a des musiciens connus traditionnellement dans l'industrie musicale qui se sont mis à utiliser les vocaloïdes? Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils mettent les noms de ces personas qu'ils utilisent en avant?
Je dirais que je n'ai pas énormément d'exemples sous la main, parce que c'est pas un truc sur lequel je me suis très tourné, mais il y a un exemple qui est très connu, ce serait celui de Lady Gaga, qui aurait utilisé Hatsune Miku, justement, au début d'un de ses concerts. Il y avait littéralement l'hologramme d'Hatsune Miku sur scène, qui chantait des chansons d'Hatsune Miku avant, juste avant, le concert de Lady Gaga.
Donc en première partie, quoi.
Oui. C'est même trouvable sur YouTube. C'était une des utilisations de Miku qui a un peu le plus fait parler d'elle, évidemment, parce que c'était plutôt unique. Et de mes souvenirs, Hatsune Miku avait aussi été nominé pour le Coachella.
Oui, gros festival qui a lieu chaque année en Californie et qui est très connu, notamment en 2009 pour le passage des Daft Punk, entre autres, qui est la référence musicale pop aux États-Unis, si je me souviens bien.
Oui, oui, c'est ça.
Pour terminer, c'est les Dreams. Est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse humain ou humaine avec qui vous souhaiteriez collaborer? Ce serait qui et pourquoi? Et attention, dans la réponse, j'exclus d'entrée l'autotune de Jules.
Ben, je dirais que c'est une question que je n'ai jamais trop réfléchi, sur laquelle j'ai jamais trop réfléchi, mais je dirais que si on parle des chanteurs, par exemple, dont j'aime vraiment, dont j'aime beaucoup le ton, qui je pense serait très bon, je dirais qu'il y en a certains, par exemple l'IA. Justement, qui est la chanteuse qui a donné sa voix à la voix Sevio, IA. En tout cas, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup et qui, je pense, pourrait sonner très bien sur certaines chansons. Mais bon, c'est vraiment pas une chose à laquelle j'ai énormément réfléchi.
Forcément. C'est les Dreams. Merci énormément de votre temps et merci justement pour la partie qui a précédé sur cette interview et du temps que vous nous aviez consacré pour y répondre. Merci beaucoup là-dessus.
Merci de même.
Et bien évidemment, bonne suite. Et comme on vous a diffusé sur Radio FMR, plus que 2 diffusions du même morceau et vous pourrez vous inscrire à la SACEM. Merci en tout cas à vous.
Je vous remercie de même.